L'entreprise de mon invité du jour, LNS, se trouve dans le Jura bernois, à Orvin. Mais c'est dans le canton de Neuchâtel qu'il me donne rendez-vous, plus précisément à Marin, au fond d'une impasse. Rien de lugubre, bien au contraire, j'arrive devant une maison ancienne qui donne sur une grande propriété entourée d'arbres. Mon interlocuteur travaille à domicile et c'est donc chez lui qu'il me reçoit. Après nous être serré la main, il me conduit dans un salon démesuré où cohabitent meubles anciens et objets design. Une petite table attire d'ailleurs mon attention. En son centre trône une fontaine à absinthe autour de laquelle sont posées plusieurs bouteilles de la spécialité du Val de Travers. Elle est entourée de différents types de sièges, dont un fauteuil au tissu couvert de cases de comics américains. À n'en pas douter, mon hôte aime les mélanges de styles. Il m'invite à prendre place sur un grand canapé, s'assoit face à moi sous un grand lustre sphérique fait de fil argenté. Le temps pour moi d'apercevoir une mezzanine sur laquelle est installé un bureau, certainement le centre des opérations. Trêve d'observation, on passe à l'entretien. Mon invité est calme, posé, prend le temps de peser ses réponses. Philippe Semama, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Alors Philippe Semama, vous présidez LNS. Déjà, ça veut dire quoi, LNS ?
LNS, ce sont les premières initiales des noms des trois fondateurs, messieurs Leschaud, Neukomm et Semama, ce dernier étant mon père.
Alors c'est une entreprise spécialisée dans les périphériques pour machines-outils. Pas grand-chose à voir donc avec votre formation initiale d'employé de commerce achevée en 1980. Comment se sont passés vos débuts dans le monde professionnel ?
Mes débuts dans le monde professionnel remontent effectivement à l'apprentissage que j'ai terminé en 1980, apprentissage d'employé de commerce. Ensuite, j'ai été mandaté pour refaire la comptabilité d'une entreprise qui était en difficulté, qui avait demandé un sursis concordataire. Entreprise dans laquelle je suis finalement resté environ un peu plus de 2 ans, où j'ai occupé de multiples fonctions, puisque c'était une toute petite entreprise de mécanique, fonction administrative.
Alors là, vous avez tout fait, hein. Vous m'avez dit que vous avez fait la compta, la vente, la livraison, et après cette première expérience, vous partez travailler dans une banque dans le canton de Fribourg. Vous m'avez dit que vous êtes totalement fourvoyé avec ce choix. Pour quelle raison ?
Pour une raison simple, c'est que je ne tenais pas en place à un peu plus de 20 ans. J'avais envie de voir des horizons autres que ceux d'un bureau que je ne vais pas dire sinistre, mais très ennuyeux en tout cas, puisque même borgne à la comptabilité d'une grande banque.
Finalement, après un passage à Bâle pour apprendre le suisse-allemand, vous entrez chez LNS en 1987. Vous répondez ainsi à l'appel de votre père, hein, l'un des fondateurs de l'entreprise, comme vous l'avez dit. Pourquoi est-ce qu'il est venu vous chercher ?
Tout simplement parce que c'était aussi là un emploi normalement à durée tout à fait déterminée, puisque le comptable était parti avec la caisse et qu'il convenait de remettre en place une comptabilité.
Donc une deuxième situation difficile d'entreprise après votre premier emploi. Les situations compliquées à gérer, c'est quelque chose qui attise votre intérêt ?
Ouais, écoutez, j'allais dire que c'est par opportunité ou par accident. Ça n'était en tout cas pas voulu ni dans un cas ni dans l'autre. Mais effectivement, c'est des challenges qui m'ont plu.
Et qu'est-ce que vous en avez retiré de ces challenges-là en tant que jeune professionnel ?
Difficile à dire ce que j'en ai retiré sur le moment, à plus long terme, mais effectivement, la nécessité d'être réactif et flexible.
Alors, une fois entré chez LNS, petit à petit, vous passez de la comptabilité à la vente. On vous confie les marchés japonais, anglais et italiens. Après un détour de 2 ans par une autre entreprise, encore en difficulté, on vous rappelle en 1995 pour le poste de directeur du groupe. Ça faisait partie de votre plan de carrière de prendre les rênes de l'entreprise familiale ?
Non, absolument pas. Je n'avais à l'époque, il faut bien se remettre dans le contexte d'un jeune qui a 25 ans quand il rentre dans la société, ou 27 ans, sans a priori, sans plan de carrière effectivement, avec d'autres aspirations personnelles également. Mais effectivement, là, en 1995, j'ai bien pris conscience du défi et de mon intérêt, effectivement, pour cette industrie.
Alors, vous vous étiez juré de ne jamais travailler avec votre père. Finalement, vous l'avez partiellement fait. Quelles limites est-ce que vous avez posées pour que ça fonctionne ?
Alors, c'est effectivement, ça peut paraître assez bizarre, mais c'est effectivement le cas, puisque mon père, bien que fondateur de la société, n'y a jamais exercé de fonction opérationnelle. Et quand en 1995 on m'a appelé à prendre la direction de cette entreprise, j'ai en effet posé des conditions à mon père qui était président du conseil d'administration à l'heure, alors à savoir que je ne voulais le le voir, entre guillemets, dans l'entreprise, ça peut sembler être dur, qu'à l'occasion des séances du conseil d'administration. Et il a très bien respecté ceci et nous nous sommes ensuite très bien entendus et complétés.
En parlant de conseil d'administration, en 2008, vous décidez de quitter la direction de l'entreprise pour en prendre la présidence que vous occupez toujours, ainsi que celle d'autres sociétés. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce rôle de président, d'administrateur ?
Alors, ce qui me plaît, c'est de pouvoir observer, de pouvoir confronter les directions à leurs défis, de pouvoir appuyer, challenger ces directions, pouvoir les conforter également. J'ai pu moi-même expérimenter ce qu'on dit, mais qu'il est difficile de percevoir, à savoir quand on est tout en haut, on est tout seul. Donc je fais en sorte que ces différentes directions ne soient pas seules.
Votre mantra, c'est de toujours aller de l'avant et de se dédier complètement, parfois au détriment du reste. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir laissées de côté en 40 ans de carrière ?
Regretter, non, mais j'ai quand même pu observer qu'effectivement, une très grande période de ma vie a été consacrée essentiellement à mon entreprise, parfois au détriment de la vie privée.
Alors on l'a dit tout à l'heure, hein, votre père est l'un des fondateurs de LNS, mais n'y a jamais travaillé. Expliquez-nous un peu la genèse de cette entreprise.
Alors je reviens aux trois initiales. Monsieur Leschaud était un ingénieur, un inventeur, qui a inventé un produit périphérique de machine-outil qu'on appelle le ravitailleur de barre. Il a inventé ce produit, mais il ne savait pas comment le fabriquer industriellement, ni comment le vendre. Il a appelé deux de ses amis, M. Neukom, qui lui était un industriel, et Maurice Semama, mon père, qui était lui un vendeur de machines. Et c'est par cette association que tout a commencé en 1973.
Et justement, après, il faut attendre 2 ans pour que LNS connaisse son premier gros succès. Et sur ce point, vous tenez à rendre à César, ou plutôt à Philippe Scherer, ce qui lui appartient. Qu'est-ce que ce jeune décolleteur jurassien vous a apporté ?
Alors, ce jeune décolleteur jurassien a eu une idée de génie, puisqu'il a mis de l'huile dans un ravitailleur de bar LNS, afin d'améliorer sa performance et de diminuer le bruit généré par le travail de la barre dans la décolleteuse.
Et ça a vraiment révolutionné les choses ?
Alors, ça a absolument révolutionné les choses. Nous avons immédiatement trouvé un accord avec Philippe Scherer pour intégrer son invention dans nos produits. Et c'est là que tout a commencé, on peut dire.
Alors, votre entreprise est spécialisée dans les périphériques pour les machines-outils. Vous les divisez en 4 grandes familles. Il y a les ravitailleurs de barres dont vous avez parlé. Le reste, en quoi ça consiste ?
Alors, il y a également les extracteurs convoyeurs de copeaux. Donc, d'un côté, on amène la barre dans la machine, donc la matière première. De l'autre côté, on sort le déchet, qui est le copeaux généré par l'usinage. Il y a également les systèmes d'aspiration des fumées, produites par l'usinage des matériaux. Et tout dernièrement, nous avons procédé à l'acquisition d'une société qui, elle, s'occupe de la gestion du liquide de coupe, donc d'amener le liquide de coupe sous pression dans la machine et le récupérer ensuite.
Alors, pour mieux comprendre tout ça, à présent, on va se rendre du côté d'Orvin. Nadia est venue promener son micro dans vos locaux en compagnie de votre directeur général, Gilbert Lille. C'est parti pour un tour du propriétaire.
Sortie de boîte.
Donc ici, vous vous trouvez dans le showroom. En fait, ici, sur le site d'Orvin, on fabrique des ravitailleurs. C'est essentiellement pour charger de la matière dans les machines, pour usiner les pièces. On a l'ensemble de la gamme des produits qu'on vend aujourd'hui en Europe, en partant des plus petits diamètres jusqu'aux plus gros diamètres. Et en fait, cette pièce a 2 fonctions. D'abord, le showroom, bien sûr, pour montrer nos produits à nos clients, mais aussi également, comme vous avez pu le voir, pour les gens du service qui descendent, lorsqu'ils ont un client en ligne et le client a un problème avec sa machine, qu'on puisse le dépanner en direct et puis résoudre son problème. Donc toute l'offre de nos produits ravitailleurs qui sont fabriqués ici en Suisse, en partant du tout petit diamètre, donc là on peut guider des barres de moins de 1 mm de diamètre, donc vraiment du très fin. Ça par exemple c'est une barre. Une barre qui est chargée en fait à l'intérieur de la machine et qui est poussée dans le ravitailleur, dans le tour. Pour usiner les pièces.
C'est des pièces qui vont être utilisées dans quoi ? Vos machines, vous allez les vendre à qui ?
Alors nous, on vend essentiellement aux fabricants de machines ou aux revendeurs de machines-outils qui font un package avec la machine plus toutes les périphériques. Ou on vend aussi aux clients finaux, les grands groupes utilisateurs qui sont dans l'horlogerie, dans le médical, dans l'automobile, dans l'aéronautique, un peu dans tous les domaines. Donc en fait, là-bas, vous aviez le showroom où ce sont tous les produits de l'offre actuelle. Et puis ici, on a l'autre pièce qui s'appelle plutôt le musée. Donc ce sont des anciennes machines, plus anciennes machines qu'on n'a plus dans notre offre actuelle. Mais par contre, qui sont toujours utilisées chez les clients. Et donc pour les mêmes raisons qu'on puisse venir dépanner les clients en temps réel. Donc là, vous voyez, je vous parle de charger des barres. Mais là, vous voyez, on peut charger des barres, on peut charger ce qu'on appelle des méplats. Donc c'est des sections carrées, toutes sortes de formes différentes. Et là, on a toutes les barres en interne pour faire des tests. Et je vous ai montré une barre tout à l'heure de 1 mm. Et là, vous avez des barres qui vont jusqu'à ce diamètre-là qu'on peut charger. Donc pour fabriquer des pièces pour l'automobile ou l'aéronautique ou... Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Alors ici, les barres, c'est le magasin de barres. Et puis quand la barre, elle est terminée, le ravitailleur, il ressort la barre, il met les chutes ici. Et puis la prochaine barre, elle va nouveau dans le ravitailleur. Le cycle continue.
Et là, maintenant, on passe vraiment dans le département assemblage de machines finies. Alors, on a deux bâtiments. On a ce bâtiment-ci, plus le bâtiment à côté qu'on ira visiter après. Mais le bâtiment ici, c'est plutôt destiné aux ce qu'on appelle des ravitailleurs manuels. En fait, ce sont les produits avec lesquels LNS s'est vraiment lancé à la base. C'est le ravitailleur HS, c'est celui que vous voyez là. Vous avez plusieurs diamètres. Donc, vous choisissez, en fonction de la barre que vous voulez usiner, vous choisissez votre diamètre, mettez la barre, et puis la barre, elle est poussée jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit finie. Mais par contre, lorsque la barre est finie, il faut arrêter la machine, il faut basculer le tube, vous chargez une nouvelle barre, vous mettez en place, puis vous commencez à produire. C'est surtout utilisé dans l'horlogerie, quand il y a des matières nobles, par exemple. Les clients ne veulent pas nécessairement charger 15 à 20 barres d'or dans un ravitailleur. Donc, ils mettent une barre, et lorsque c'est fini, ils arrêtent. Ils peuvent contrôler, puis mettre la prochaine barre, ainsi de suite. Donc ici, on est au deuxième étage du bâtiment de production des ravitailleurs automatiques. Là, vous voyez plusieurs produits. Vous voyez ce qu'on appelle le Triton. Ça, c'est un produit qui a été beaucoup vendu dans l'horlogerie, aussi dans le domaine médical. Donc tout autour d'ici, la plupart des entreprises, vous trouverez des Tritons pour charger des barres. Donc là, vous voyez, là, c'est, en fait, on met une barre par tube. Et là, c'est des petits tubes de 5 mm. Mais après, le client... Suivant ses besoins, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des barillets hybrides. Vous avez plutôt un petit diamètre puis un gros diamètre. Comme ça, c'est le client nous dit en fonction de ses besoins, de ce qu'il va produire sur la machine. Nous, on peut mettre les bons tubes en fait, dans le barillet. Et là, vous voyez plusieurs modèles en cours de production.
Sortie de boîte.
Alors, on a entendu parler d'horlogerie, de médical. Vous avez d'autres débouchés aussi avec ces produits-là ?
Oui, je crois que Gilbert Lille les a cités. On parle aussi, bien sûr, de l'automobile, qui est un gros prescripteur. Il se fait beaucoup de pièces dans l'automobile, bien évidemment, des très grandes quantités, mais aussi, par exemple, l'aéronautique.
Alors, on l'a vu, on ne l'a pas encore vu, mais vous êtes passé de 40 employés à plus de 1100 en l'espace de 30 ans. Grandir, ça a toujours été l'objectif de LNS ?
On dit qu'il n'avance pas, recule, qu'il ne grandit pas, disparaît également. Ça n'a pas été un objectif en soi, mais d'abord par la croissance interne de nos affaires, heureusement, mais également par des opportunités d'acquisition de sociétés qui faisaient des produits complémentaires aux nôtres. Ben effectivement, nous sommes arrivés à cette croissance.
Cette stratégie de rachat d'entreprise, pourquoi l'avoir favorisée, par exemple, à implanter des filiales vous-même à l'étranger ?
Alors, je parlais d'opportunités. Effectivement, pratiquement un fil rouge de notre vie, de notre histoire, de notre croissance. Dans certains cas, nous voulions prendre pied sur certains marchés étrangers et il s'avérait très difficile de le faire en étant nous-mêmes tout simplement suisses et ignorant des conditions du marché. Donc il est intéressant d'acquérir une entreprise locale. Et dans d'autres cas, c'est le produit de l'entreprise qui nous intéressait, où là aussi, il aurait été difficile, compliqué, long et coûteux que de réinventer un produit qui se trouvait déjà sur la planète.
Sans l'hydrobar de Philippe Scheurer qui vous a vraiment permis de vous différencier en 1975, est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même succès aujourd'hui ?
J'ose l'espérer, j'ose le croire, en prenant des voies différentes, bien entendu. L'histoire a été écrite, elle ne se réécrit pas.
Aujourd'hui, vous bénéficiez d'une solide réputation et d'une place de leader mondial dans le domaine des périphériques pour machines-outils, mais ça ne se fait pas tout seul. Comment est-ce que vous vous adaptez pour rester en tête ?
Il n'y a pas une recette unique. On l'a vu, il faut toujours être curieux de, principalement du marché. Il faut être proche de la clientèle. Une petite digression, Gilbert Lille parlait de ce service après-vente qu'on fait à l'interne. Là, il parlait de service après-vente téléphonique. Mais je pense que nos premiers vendeurs et nos premiers observateurs du marché sont nos techniciens. Nous en avons plus de 200 qui sont dans le monde entier. C'est aussi une force en termes de marketing, puisque nous plaisons à dire que nos techniciens de service après-vente sont systématiquement à moins de 2 heures de tous nos clients sur la planète.
Ça, c'est quelque chose qui fait la différence par rapport à vos concurrents. Eux n'offrent pas des services comme ça.
C'est une différenciation par rapport à notre clientèle. Je n'ai pas l'habitude de critiquer nos concurrents. Mais ce que je dirais, c'est que notre force, c'est d'avoir cette emprise globale dans tous les pays industrialisés du monde, également grâce à notre service après-vente de proximité.
Une manière aussi d'évoluer, c'est d'avoir développé des gammes supplémentaires. Il y a quelques années encore, vous n'aviez qu'une gamme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors effectivement, on a parlé de ces quatre lignes de produits, ces quatre périphériques. Cette évolution nous permet de nous adresser à notre clientèle, de leur offrir ce qu'on appelle chez nous le one-stop shop. Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare ? Pour l'illustrer, je dirais qu'aujourd'hui, vous et moi allons facilement dans un centre commercial où nous trouvons tous les produits dont nous avons besoin, plutôt que, on peut le dire malheureusement pour le commerce local, hein. Mais ça c'est une autre histoire, plutôt que d'aller à l'épicerie, à la boucherie, chez le cordonnier, etc. etc. Nous avons une offre centralisée.
Alors être le premier c'est gratifiant, mais ça oblige aussi à aller de l'avant. Parfois on se trompe, vous m'avez confié que LNS avait inventé des choses extraordinaires qui ont terminé à la poubelle. Vous avez des exemples là ?
Ah oui, on a malheureusement pas mal d'exemples, principalement au niveau des ravitailleurs, où c'est une science qui est, je peux appeler ça une science inexacte, qui repose sur pas mal de savoir-faire, où nous avons à plusieurs reprises voulu faire le produit qui allait révolutionner tout le monde, et à la fin on s'est aperçu souvent que le produit fonctionnait, mais qu'il n'était tout simplement pas industrialisable, donc pas vendable.
Mais c'est quand même des idées que vous gardez dans un coin de la tête qui pourront peut-être être utiles.
Alors très souvent, effectivement, des parcelles de ces produits qui se retrouvent mornés sont réutilisées ensuite pour d'autres systèmes.
Si on se tourne vers l'avenir maintenant, est-ce que LNS va poursuivre sa croissance ou est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir atteint votre taille critique ?
Non, nous avons encore des poches de croissance, comme on appelle ça, qui sont soit au niveau des marchés, je pense notamment à l'Inde, où nous ouvrons ces jours-ci une filiale qui aura même 2 bureaux en Inde, filiale de vente, non pas filiale de fabrication. Ça, ce sont pour les marchés, donc il y a encore des capacités de croissance au niveau des marchés. Au niveau de nos produits, nous avons certains produits qui sont très bien implantés dans certaines parties du globe, moins dans d'autres parties. Donc là, il y a également des possibilités de croissance. Et il y a encore d'autres périphériques que nous pourrons ajouter à notre gamme actuelle.
Vous avez des exemples ou c'est top secret pour l'instant ?
Au niveau des produits, c'est top secret pour l'instant.
Alors l'un de vos défis actuels, c'est celui de l'industrie 4.0. C'est un terme un peu fourre-tout, hein, difficile à résumer ici. Mais concrètement, pour LNS, qu'est-ce que ça va changer dans les années qui viennent ?
Alors, ça va changer passablement de choses, certainement, tant au niveau de nos activités internes, notre manière de fonctionner interne, comme au niveau des marchés, puisque nos clients nous demandent aujourd'hui d'être beaucoup plus interactifs en termes d'échange de données de nos machines vers leur système d'exploitation propre.
Vous avez d'ailleurs nommé en début d'année un directeur de la digitalisation. Ça devient vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui a ce rôle-là ?
Ça devient nécessaire. C'est très difficile d'appréhender ce sujet. Moi-même, n'étant pas très bon au niveau de tous les systèmes informatiques, j'ai quand même l'intuition que aujourd'hui déjà, mais encore plus demain, nous serons beaucoup commandés par ce qu'on appelle aujourd'hui le 4.0, par les interactions entre les objets.
Alors un autre gros défi pour l'industrie, c'est aussi les conditions cadres dans lesquelles elles doivent travailler. On observe aujourd'hui dans de nombreux pays un retour du protectionnisme. C'est quelque chose qui vous inquiète ?
Alors ça m'inquiète à plusieurs titres. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain essoufflement de la Chine qui est dû à la guerre menée par monsieur Trump. Qui en subira lui-même les conséquences, mais ça on le verra par la suite. Pour l'instant, il surfe sur une bonne vague. Donc ça, c'est un effet immédiat de ces nationalismes, de ces replis sur soi. Un autre élément qui m'inquiète aujourd'hui et qui inquiète les 97 000 entreprises exportatrices de ce pays, dont 90% de PME. Si je peux faire une toute petite digression à nouveau, c'est les votations qui auront lieu dans une dizaine de jours, notamment l'initiative sur l'autodétermination qui, si elle était acceptée, pourrait porter un coût très important à notre économie.
Alors, une inquiétude que de nombreux entrepreneurs partagent. On verra la réponse le 25 novembre. Mais avant de conclure cette émission, on retrouve Marie-Lise Saillard et sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
C'est un grand monsieur de l'horlogerie suisse. Blancpain, Omega, Hublot, TAG Heuer et Zenith lui doivent beaucoup. Il a reçu le prix spécial du jury la semaine passée lors de la cérémonie du Grand Prix d'horlogerie de Genève. Un prix qui couronne sa carrière et sa contribution à l'industrie horlogère suisse. La salle s'est levée et a longuement applaudi quand Jean-Claude Biver est monté sur scène.
J'étais ému parce que j'avais en face de moi une salle de 500 personnes qui faisait une standing ovation. J'ai pas l'habitude, je suis pas une star. Donc ça m'a créé une émotion incroyable de voir ces 500 personnes debout. Et je me suis dit, mes 44 ans de métier valaient bien la peine pour un tel moment magique et unique.
Dans son discours, Jean-Claude Biver a livré une anecdote au public, une anecdote qui remonte aux années où il était à l'école.
Quand mon prof me disait, vous êtes tellement mauvais à l'école, vous n'avez que deux possibilités plus tard dans la vie, soit vos parents suffisamment d'argent pour vous éviter de travailler, de gagner de l'argent sans travailler, ou bien, si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours devenir patron, mais à condition d'engager autour de vous que des gens bien plus brillants que vous. Et cette leçon-là, je ne l'ai jamais oubliée, et j'ai autour de moi des gens extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce prix était aussi le leur, parce que sans eux, sans ma garde rapprochée, je ne serais pas là où je suis.
Jean-Claude Biver a donc reçu le prix spécial du jury, matérialisé par un petit trophée en forme de main dorée. Alors que va-t-il faire de cette récompense ?
Ah, je vais la mettre dans mon bureau, à la maison.
Au milieu de plein d'autres choses ?
Oui, au milieu d'autres petits souvenirs de récompenses, parce que j'en ai reçu quand même quelques-unes déjà. Et donc je vais mettre ça, elle va venir enrichir ma collection.
En tout cas, vous avez dit que celle-là, elle était spéciale pour vous.
Elle est spéciale, bien sûr, elle est spéciale parce que c'est la dernière. C'est une des toutes dernières, vous voyez. Et puis elle est spéciale aussi parce que j'en ai reçu pour mes montres, pour nos objets, mais jamais pour une carrière. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas au bout de la carrière. Donc ils vont peut-être devoir m'en donner une deuxième fois, quand j'arrêterai vraiment. Pour l'instant, ce n'est pas un arrêt.
Il y a eu la standing ovation et puis il y a eu l'hommage qu'on vous a rendu sur scène. Les mots étaient...
Formidable. J'espère qu'on l'aura enregistré parce que je voudrais souvent le réécouter.
Jean-Claude Biver a récemment quitté ses responsabilités opérationnelles pour n'assumer plus que la fonction de président non exécutif de la division horlogère du groupe LVMH.
Pile à l'heure.
Philippe Semama, vous êtes d'accord avec Jean-Claude Biver, un patron doit s'entourer de personnes meilleures que lui.
C'est la clé, c'est tout simplement la clé. Et c'est ce que j'essaie de faire pendant toute ma carrière professionnelle et que j'essaie de faire encore aujourd'hui.
Eh bien, c'est sur ce message qu'on va conclure. Philippe Semama, je rappelle que vous êtes le président du groupe LNS basé à Orvin. Merci d'avoir répondu à notre invitation et belle soirée.
Merci, bonne soirée à vous.
Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur notre site internet. La semaine prochaine, Adrien Juvet nous présentera l'entreprise Spitzwerk, qui, comme son nom ne l'indique pas, se trouve au Cerneux-Péquignot, dans le canton de Neuchâtel. Une entreprise spécialisée dans la réalisation de cartes topographiques en bois. D'ici là, belle semaine à toutes et à tous.
Sortie de boîte.